Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Lundi 15 décembre 2025, il est 6h avant minuit. Petit rappel pour notre dernière émission de l'année, on organise une collecte pour les associations Cœur Résistant et Iskis. Boissons chaudes, aliments festifs, ingrédients de base pour préparer des bons plats chauds, vêtements chauds, surtout pour hommes, couvertures, oreillers. Pour donner, rendez-vous dans nos locaux sur le campus Villejean, bâtiment EREV, 2e étage, très exactement. Et pour plus de détails, je vous invite à consulter la publication sur notre page Instagram 6h avant minuit sur Syllab. La récolte sera transmise aux assos le jeudi 18 décembre prochain, lors de leur passage dans 6h avant minuit. Merci par avance pour votre générosité. À toi Lafken, c'est l'heure du flash.
Un deuil international après la plus grande tuerie de masse sur le sol australien depuis 30 ans. Hier, une foule célébrait la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi près de Sydney. Deux hommes, un père de 50 ans et son fils de 24 ans, ont alors ouvert le feu avec des armes longue portée, faisant au moins 16 morts et 42 blessés. Le père a été abattu par la police et le fils arrêté. Parmi les victimes âgées de 10 à 87 ans, un Français de 27 ans, Dan El Kayam, le parquet national antiterroriste français s'est donc également saisi de l'affaire alors que les motivations de l'attentat restent floues. Meurtre à Hollywood, hier le réalisateur américain de 78 ans Rob Reiner et son épouse la productrice Michelle Singer Reiner, 68 ans, ont été retrouvés morts dans leur maison de Los Angeles. La police a ouvert une enquête pour homicide, les victimes présentant des blessures à l'arme blanche. Et nous apprenons il y a une heure l'inculpation de leur fils âgé de 32 ans Nick Reiner, soupçonné d'avoir assassiné le couple hollywoodien. Ancien toxicomane, sa caution s'élève à 4 millions de dollars. Quand Harry rencontre Sally, Princess Bride, Stand By Me, Rob Reiner avait réalisé une vingtaine de films cultes. Son épouse était devenue la productrice de plusieurs de ses films. 35 ans après la dictature, le fantôme de Pinochet est de retour au Chili. Une fois de plus, l'Amérique latine bascule vers l'extrême droite. Hier, le leader d'extrême droite, José Antonio Kast, a été élu président du Chili avec 58% des voix, contre 42% pour Janet Jara, son opposante communiste. Du jamais vu depuis 1990, fils d'un soldat de la Wehrmacht et adorateur de Pinochet, Kast a fait de l'immigration son ennemi numéro 1. Expulsion du pays, travail avec la méga-prison du Salvador, construction d'un mur aux frontières, déploiement de l'armée. Comme de nombreux présidents d'Amérique latine, Kast s'alignera sur la politique de Trump. 27 actions d'envergure et environ 1000 manifestants présents, c'est ce qu'a annoncé hier le ministère de l'Intérieur. Tout le week-end, des mobilisations paysannes ont fait un grand bruit en France. La raison, la réapparition d'un virus bovin, la dermatose nodulaire contagieuse. Pour limiter sa propagation, l'État impose l'abattage systématique des troupeaux concernés, provoquant la colère des agriculteurs et agricultrices. Roman fait le point.
Blocage, barrage, déversement de pneus et de fumier. De nouveaux élevages ont été infectés la semaine dernière en Ariège, puis dans les Hautes-Pyrénées. Pour les syndicats agricoles, pas question de se soumettre aux règles imposées par l'État. Quand il y a une bête malade, tout le monde est d'accord pour l'abattre, mais tuer des troupeaux entiers alors qu'il faut des années pour monter une génétique et monter un troupeau, on est totalement contre, a déclaré à l'AFP l'éleveur Christophe Guénon. Aujourd'hui, plus de 200 maires et élus locaux d'Ariège se sont rassemblés devant la préfecture de Foix. L'objectif des mobilisations, exprimer le refus de l'abattage intégral et demander un nouveau protocole.
Mais qu'est-ce que c'est exactement ce virus ?
La dermatose nodulaire contagieuse, DNC, est une maladie très contagieuse chez les bovins. Elle provient des piqûres d'insectes, comme les stomox ou les mouches hématophages et les tans. Elle n'est pas transmissible aux humains, mais chez les bovins, la DNC provoque de la fièvre, des grosseurs sur la peau et les muqueuses. Pour les éleveurs et éleveuses, ce virus a un impact économique, à la fois à la cause des vaches, en mourant, mais aussi parce que la DNC provoque une chute de la lactation, donc moins de production laitière. Pourtant, on n'a plus entendu parler de cette maladie en Europe depuis 7 ans. Elle a refait son apparition en France, en Savoie, le 29 juin dernier. Depuis, 110 foyers ont été détectés dans l'Hexagone, dans 9 départements, et environ 3000 bovins ont été abattus.
3000 bovins euthanasiés pour éviter une épidémie, c'est bien ça ?
Oui, pour la protection du cheptel bovin français, l'État impose plusieurs mesures comme une surveillance rapprochée d'un élevage, des vaccinations massives et le dépeuplement total des bovins des foyers. Mais pourtant, d'autres maladies touchent les élevages bovins, comme la fièvre catarrhale ovine ou la maladie hémorragique épizootique. Pour ces cas-là, le recours à l'euthanasie n'est pas imposé.
Mais alors pourquoi la dermatose nodulaire pose problème ?
La première raison est réglementaire, puisque la DNC est classée catégorie A, comme une maladie à éradication immédiate, au même titre que la fièvre aphteuse. Et comme c'est une maladie qui n'est pas présente en Europe, tous les moyens sont permis pour qu'elle ne s'installe pas sur le territoire. Et l'autre raison est commerciale, car la perte du statut bovin indemne bloquerait les exportations vers certains pays en dehors de l'Union européenne.
Les agriculteurs veulent, comme tu le disais tout à l'heure, un nouveau protocole. En quoi est-ce qu'il consiste ?
Oui, la Chambre d'agriculture et une intersyndicale comprenant les jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne et la Coordination rurale ont déposé un protocole expérimental vendredi soir à la préfecture du Gers. Alors que préconise ce protocole ? Déjà l'abattage ciblé des animaux positifs et non l'abattage systématique des troupeaux entiers. Mais aussi une surveillance hebdomadaire pendant 4 à 6 semaines et un renforcement de la surveillance vétérinaire, une enquête approfondie sur l'origine de la contamination. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, s'est rendue en Haute-Garonne pour lancer une campagne de vaccination massive sur 1 million de bêtes. Elle participe aussi à une réunion de crise à la préfecture à Toulouse. Selon France Info, elle a assuré être une femme de dialogue. Pour elle, la discussion est ouverte sur une éventuelle suspension des abattages systématiques troupeaux bovins.
Aujourd'hui, dans le sud-ouest, les agriculteurs et agricultrices multiplient blocages et manifestations, donc à la fois contre l'abattage systématique lié à la dermatose nodulaire et contre des accords commerciaux jugés menaçants pour leur avenir, des tensions qui pourraient encore monter d'un cran dans les jours à venir. Cette semaine, à Bruxelles, les ministres des États membres de l'Union européenne doivent se prononcer sur l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Un texte loin de faire consensus dans le monde agricole. Après l'agriculture, la culture se révolte aussi. Louvre en grève, voilà ce qu'on a pu lire ce matin sur une banderole portée par le plus grand musée du monde. Ce matin, la CGT et la CFDT ont annoncé qu'environ 400 agents et agentes du musée ont voté à l'unanimité pour une grève reconductible. Les raisons, une détérioration des conditions de travail, un manque de personnel permanent et la dégradation de l'accueil du public. Presque 2 mois après le cambriolage du Louvre, les problèmes techniques s'y multiplient. Au même moment, le projet de loi de finances 2026 annonce une baisse de 5,7 millions d'euros de dotation pour le musée. Pas de réouverture prévue avant mercredi matin donc, quand se tiendront de nouvelles discussions. Notre ville est une actrice de premier plan dans les recherches contre le cancer du sang. Au sein de la faculté de médecine de Rennes, une équipe de chercheurs et de chercheuses étudie le lymphome folliculaire, un cancer du sang fréquent. Le chercheur et chef de projet Dr David Roulois s'est exprimé auprès de West France. Il affirme, je cite, « Nous sommes confiants sur le fait d'atteindre les objectifs ». Chaque année, ce cancer touche entre 3000 et 5000 personnes en France, et malgré un taux de survie estimé à 90%, une rechute peut devenir agressive. Ces recherches rennaises visant à optimiser les traitements sont financées par la fondation ARC de lutte contre le cancer, budget sur 2 ans, 70 000 euros. Investir 1 milliard d'euros en Bretagne, c'est la promesse de l'entreprise immobilière Aiguillon d'ici 2030. Cette année, la firme a inauguré son nouveau siège social à Rennes, un bâtiment de 6200 m² haut de 8 étages. Aujourd'hui, l'entreprise de construction prévoit de construire 600 à 700 logements par an dans l'Ouest et d'en réhabiliter 180 à 200. Un pari que le directeur d'Aiguillon, Thierry Eyvan, défend auprès du Télégramme, je cite, « Il y a un vrai besoin de nouveaux logements sociaux », un besoin auquel Aiguillon a commencé à répondre en achevant début décembre un chantier de 29 logements dans le Finistère pour un coût d'environ 4 millions d'euros.
C'est la fin de ce flash, merci Lafkène. On passe à l'interview et c'est l'interview du lundi, c'est Estelle qui pose les questions.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Ce soir, nous sommes en compagnie de Johan Reck, vice-président de l'Université de Rennes 2, Transition socio-environnementale, pour parler du schéma de planification d'orientation des transitions. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce que déjà, pour commencer, vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi ce schéma, de quoi il parle ?
Alors, ce schéma directeur, c'est deux choses. C'est à la fois une demande ministérielle, c'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche demande à tous les établissements, toutes les universités de mettre en œuvre ce document-là. Et nous, l'intérêt qu'on y voyait, c'était aussi d'ancrer notre politique et notre stratégie en matière de transition environnementale, et donc de la formaliser, on va dire, quoi.
Et pourquoi Rennes 2 ressentait le besoin de la normaliser, de mettre ça en place ?
Parce que jusqu'à maintenant, en fait, alors ça fait une quinzaine d'années qu'il y a un investissement de l'établissement sur les questions de développement durable, mais il n'y avait pas eu de documents stratégiques, de planification, de pilotage. Donc là, c'était un engagement fort, et ce besoin, il vient de là. L'idée, c'est d'avoir une trajectoire, de savoir où on va, puisque c'est un schéma directeur qui aura une validité de 5 ans, donc jusqu'en 2030. Donc ça permet vraiment de planifier, d'avoir un suivi après très très fin de toutes les actions qu'on va mettre en œuvre de façon très très transversale, parce que ça embrasse vraiment toutes les activités de l'établissement.
Et est-ce que vous pouvez nous faire un peu un résumé de ces actions du coup qui vont se dérouler de 2025 à 2030 ?
Oui, alors déjà ce qu'il faut dire, c'est que ce travail, il a été co-construit avec la communauté, c'est-à-dire c'est quand même un an de travail, la construction du document en tant que tel, avec beaucoup d'ateliers participatifs qui ont impliqué les services, les étudiants, les collègues, etc. Et donc le schéma, il a 5 grandes directions. La première direction, c'est de transformer la gouvernance de l'établissement pour mieux prendre en compte les enjeux de transition socio-environnementale. La deuxième direction, c'est tout ce qui touche aux activités de recherche. Comment est-ce qu'on s'y prend pour décarboner la recherche et aussi mieux prendre en compte les enjeux de transition dans la recherche. Le troisième axe, c'est la formation. Donc comment est-ce qu'on peut mieux former à la fois le personnel et nos étudiants aux grands enjeux de transition. Le quatrième axe, ça va être tout ce qui concerne plutôt, on va dire, l'impact environnemental de l'établissement et la décarbonation de toutes les activités de l'établissement, que ce soit les bâtiments, la gestion des ressources en eau, etc. etc. Et puis le dernier axe porte plutôt sur la qualité de vie à la fois au travail et sur les campus. Donc c'est plutôt un pôle, on va dire, social, quoi.
Oui, donc on voit bien que ce spot quand même touche un large panel d'axes. Donc vous avez parlé de l'axe 1 qui est la gouvernance en transition. Et vous avez annoncé que l'installation d'une gouvernance dédiée aux questions de transition. Et je me demandais concrètement comment cette nouvelle structure va-t-elle changer la manière dont se prennent les décisions dans l'université ?
Alors en fait, l'idée c'était déjà d'avoir, en termes de gouvernance, d'avoir des référents dans chacun des laboratoires, dans chacun des services, d'avoir des interlocuteurs en fait. Donc là, c'est ce qui a été mis en place. Donc maintenant, chaque laboratoire a un référent en matière de transition socio-environnementale. Chaque service doit également nommer une personne. Et on organise des réunions régulières, que ce soit des réunions avec les référents, notamment les référents de laboratoire. Et puis on a une réunion trimestrielle qui est une commission qui s'appelle la COP-TSE, donc Commission d'orientation et de planification des transitions. On en a une ce jeudi et on se réunit tous les 3 mois à peu près, et on fait un point à la fois sur ce qui se met en place, sur les projets, sur les événements, et c'est aussi une instance de dialogue, donc les collègues peuvent aussi faire remonter des besoins, des envies. C'est une instance aussi où systématiquement on a soit un service, soit un laboratoire qui présente des bonnes pratiques, l'idée étant aussi d'inspirer les autres collègues, les autres services pour voir ce qui se fait dans d'autres disciplines, soit dans d'autres domaines que le leur. Donc voilà, en termes de gouvernance, ce qu'on a cherché à mettre en place, c'était ça. Et aussi avoir on a une cellule TSE, qui est une cellule qui est intégrée dans un service qui s'appelle la DREAM, qui est la direction du patrimoine à l'université de Rennes 2. Et donc on a du personnel qui est dédié aussi pour mettre en œuvre de façon concrète les questions de transition au sein d'un service et d'un pôle. Donc ce qu'on appelle gouvernance, c'est ça. plus moi mon rôle, qui est plus un rôle entre guillemets politique, en tant que vice-président de l'université, qui est plutôt un rôle d'animation et de chef d'orchestre, un petit peu toute cette politique transition.
Mais du coup, est-ce que les étudiants, ils ont un rôle dans cette gouvernance ou pas ?
Oui, complètement. Alors les étudiants, déjà, ont été consultés et impliqués dans la construction du schéma directeur. Et dans la COP TSE, il y a aussi des représentants étudiants. Donc déjà, les vice-présidents étudiants ont une place. Et puis, les représentants des étudiants dans les UFR et les instances peuvent siéger aussi dans cette COP TSE. Donc on a ces étudiants-là. Et on a aussi un autre réseau qui est le réseau des ambassadeurs étudiants. Donc les étudiants à l'université ont la possibilité de représenter leur promotion et d'intégrer en fait la stratégie en matière de transition. Et les étudiants ambassadeurs ont de droit la possibilité de siéger dans la COP TSE. Donc voilà, on essaie d'impliquer les étudiants-là. Et la COP TSE implique aussi les associations étudiantes. Donc voilà, les assos étudiantes qui sont engagées, on a quand même une grosse dynamique étudiante sur le campus. Donc les assos peuvent aussi participer à la COP TSE.
Et ce plan-là, il fixe un objectif assez ambitieux quand même, réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et on a pu voir aussi qu'il y a eu de nombreux bâtiments qui ont été rénovés sur les années précédentes. Mais comment ces rénovations s'inscrivent-elles dans la logique du SPOT du coup ?
Oui, alors c'est vrai que la rénovation des bâtiments, c'est un enjeu hyper important en fait de décarbonation. On les rénove avec les moyens qu'on a, qui sont certainement pas suffisants, mais en tout cas on les programme par rapport à des investissements qui sont liés au CPER, donc les contrats plan État-Région, qui nous permettent de rénover bâtiment par bâtiment. Donc là, le dernier grand projet qu'on a eu, ça a été la rénovation du bâtiment E, qui est devenu un des bâtiments, qui était un bâtiment historique de Rennes 2, et qui là est un bâtiment extrêmement performant, sur lequel on arrive à faire des suivis et des comptages extrêmement fin pour voir la déperdition, etc. Donc c'est devenu un bâtiment qui est très très performant d'un point de vue énergétique. Et l'autre opération qu'on mène, c'est la rénovation du bâtiment A actuellement, avec la surévaluation du bâtiment avec des matériaux biosourcés, etc. Donc en fait on est obligé de se caler sur le CPER qui nous permet de financer bâtiment par bâtiment. Donc ça, c'est les deux grands projets qui ont été menés. Le A est encore en cours. Et le prochain projet qui arrivera dans les années futures, ça va être la démolition du bâtiment I, qui est un vieux bâtiment et qui, on peut le dire, a une passoire thermique et qui va être remplacé à l'horizon entre 2030 et 2032, normalement, par un nouveau bâtiment qui devrait accueillir les STAPS.
Donc ce spot, on peut voir qu'il s'axe aussi sur l'amélioration du coup de la vie de campus pour les étudiants, mais qu'on parle aussi de... Enfin, il y a un volet qui parle d'inclusion, d'équité et de qualité de vie. Et du coup, en pratique, comment ces enjeux sociaux vont-ils se traduire dans la vie quotidienne des étudiants, du personnel ?
Ben, sur ce volet-là, l'idée, c'était de formaliser un petit peu déjà des choses qui sont existantes, puisqu'il y a déjà quand même une grosse dynamique en termes d'inclusion, en termes de lutte contre les discriminations. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de Rennes 2. Donc sur ce volet-là, l'idée, c'était un petit peu de formaliser, de mettre un petit peu noir sur blanc ce qu'on met déjà en place, le fait qu'on ait une vice-présidence, donc Emmanuel Smirou en charge de ces questions-là, à la fois de conditions de travail, etc. On a aussi recruté une chargée de mission égalité, Sarah Ansari. Donc l'idée, c'était qu'on puisse formaliser, que ça soit un petit peu gravé dans le marbre, ce qu'on met en place. Je pense par exemple au Mardi de l'égalité, qui ont vraiment trouvé leur public depuis 10 ans et qui permettent tous les mois d'avoir des conférences sur ces sujets-là et sur ces enjeux-là. Donc l'idée sur ce volet-là, c'était vraiment de formaliser un petit peu ce qu'on fait. Et on va avoir un autre schéma sur ce volet-là qui sera le schéma de la vie étudiante qui devrait sortir dans l'année et qui viendra compléter en fait ce qu'on a déjà mis en place sur ces sujets.
Et comment il va le compléter ?
Bah, il va le compléter sur des sujets vraiment spécifiques aux étudiants, en fait. Donc là, on a peut-être un petit peu survolé certaines questions. Mais là, ça va vraiment être un schéma directeur vraiment focalisé uniquement sur les étudiants, alors que là, ce qu'on appelle le SPOT est beaucoup plus large et englobe l'ensemble des activités de l'établissement et a pas une entrée spécifique étudiant, quoi.
Mais aussi cette inclusion, du coup, elle va passer par l'axe de formation, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Mais pour un étudiant en licence, en master, cette formation, comment elle peut se dérouler ? Enfin, qu'est-ce que ça signifie pour lui ?
En matière de transition, vous voulez dire ?
Oui.
Oui, en fait, la formation à la transition, ça c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Ça existait pas ou peu, ou alors dans des cursus vraiment spécifiques. Je pense à la géographie ou à la sociologie, sur lequel il y avait des choses sur l'inclusivité, les discriminations, etc. Mais sorti de ces cursus-là, c'était peut-être plus limité. Et ce qu'on a voulu mettre en place, c'était vraiment d'arriver à former l'ensemble des étudiants sur leur cursus de licence aux questions de transition socio-environnementale au sens large, avec un socle commun de connaissances, notamment les grandes connaissances du GIEC, que chaque étudiant qui a fait son cursus à Rennes 2 ait entendu parler à un moment donné de ces enjeux-là et de ces sujets-là. Donc l'idée, c'était d'aborder à la fois les problématiques de changement climatique, les problématiques d'effondrement de la biodiversité, et puis aussi les questions de justice sociale. Donc on a travaillé sur plusieurs choses. On a travaillé sur le renforcement des UE en première et en deuxième année, qui sont des UE transversales, en fait. Donc là, maintenant, on a 4 UEO qui portent sur les transitions. Donc les étudiants peuvent aller choisir ces UEO-là. On a mis en place un MOOC, qui est un MOOC obligatoire en L2. Donc tous les étudiants doivent passer sur ce MOOC en L2. Et là, actuellement, on travaille sur la mise en place de cours spécifiques et disciplinaires en L3 et en master. Et ça, c'est ce qu'on a planifié dans notre schéma directeur. Donc ça va monter en puissance jusqu'en 2028. Et normalement, à partir de 2028, sur la nouvelle offre de formation, tous les étudiants en L3 et en master auront des cours, cette fois disciplinaires, donc qui articuleront la transition socio-environnementale avec le cursus dans lequel ils sont, quoi.
Et donc on voit bien qu'il y a une réelle insertion des étudiants dans le domaine de la transition, mais Rennes 2 aussi insiste sur son ancrage territorial. Donc dans ce spot, comment vous imaginez la collaboration peut-être avec la région ou d'autres acteurs locaux ?
Alors la collaboration, elle s'est fait à beaucoup de niveaux, en fait, au niveau territorial, mais principalement avec la métropole et les métropoles, je dirais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur plusieurs campus et qu'on a aussi Saint-Brieuc. Donc les collaborations, elles se sont faites avec Saint-Brieuc et avec la métropole de Rennes, puisque dans le même temps, la métropole de Rennes mettait en place son plan climat air énergie, son PCAET, qu'elle vient de voter il y a quelques mois. Et donc en fait, nous, en tant qu'établissement, on est quand même un établissement important sur le territoire, plus de 20 000 étudiants, 1400 personnels. Donc on a participé à la structuration du PCAET de Rennes Métropole, et on a cherché à articuler notre schéma directeur avec ces enjeux de décarbonation qui se mettent en place sur le territoire. Donc l'idée, c'est que nous, en tant qu'organisation du territoire et établissement d'enseignement supérieur, on contribue à cette trajectoire qui est voulue par Rennes Métropole.
Donc on peut voir quand même que le SPOT touche un large panel, englobe plein d'acteurs différents. Mais pour terminer, je me demandais quels sont les obstacles les plus importants pour atteindre ces objectifs en 2030 ?
Les obstacles les plus importants, je dirais, c'est les moyens qu'on nous donne, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Université de Rennes 2 a des petits problèmes de budget. Donc forcément, ça, c'est quelque chose qui est une limite, hein. On aimerait rénover plus vite les bâtiments, on aimerait avoir plus de personnel pour soutenir les projets qu'on met en œuvre. Donc ça, je dirais que c'est quand même une limite. On a cherché à avoir un schéma directeur qui soit le plus objectif possible, aussi au regard de notre situation financière. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas voulu faire de greenwashing. Les actions qu'on a mises, c'était des actions qui étaient finançables, qu'on était capable de mettre en œuvre, etc. Mais l'obstacle principal, c'est les moyens que le ministère nous donne pour mettre en œuvre nos missions de service public. Et là, clairement, on manque d'un financement de la planification écologique. Ça, c'est très criant, quoi.
Bah, en tout cas, merci beaucoup Johan Reck pour toutes ces explications sur le spot. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à... Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations ?
Sur le site de l'université Rennes 2, le schéma directeur est en ligne.
C'est tout aussi simple. Merci.
6 heures avant minuit.
Elle ne s'y connaît ni en vache ni en communication téléphonique, mais un peu plus en musique. C'est la chronique Play Pause Décrypte de Roman.
Et aujourd'hui, on va aller en 1994. C'est l'ouverture de l'Eurostar. Jeff Bezos lance Amazon et Nelson Mandela devient président de l'Afrique du Sud après les premières élections multiraciales du pays. Au cinéma, c'est une année exceptionnelle. Pulp Fiction, Forrest Gump, Les Évadés, Le Roi Lion, Léon. Et côté musique, on peut entendre Disarm du groupe The Smashing Pumpkins. Contrairement à la plupart des morceaux de l'album Siamese Dream, Disarm se repose pas sur une guitare saturée. Ici, tout est plus acoustique, des cloches, des cordes, des percussions orchestrales. Un rock alternatif plus fragile, plus à nu, qui classe immédiatement le morceau comme étant une musique tourmentée. Et derrière cette mélodie douce, les paroles sont dures, crues, principalement parce qu'elles sont autobiographiques. Disarm, c'est un retour sur l'enfance de Billy Corgan, le chanteur du groupe. Il y évoque, sur un ton accusateur, sa relation compliquée avec ses parents. Une enfance fracturée, marquée par la violence émotionnelle et le sentiment d'abandon. La chanson raconte l'histoire d'un enfant qui a grandi trop vite, obligé de se protéger, et celle d'un adulte qui comprend, plus tard, que la colère est un héritage. Mais Disarm n'est pas seulement une chanson de haine, c'est un désarmement. Billy Corgan choisit la vulnérabilité, portée par une mélodie douce. Pourtant, les paroles sont jugées trop sombres par la BBC, qui décidera d'en interdire la diffusion, notamment à cause de cette phrase. Qui veut dire en français « couper cet enfant ». À l'époque, ces paroles sont interprétées comme une référence à l'avortement, un sujet extrêmement controversé à cette période. Et la deuxième phrase problématique selon la BBC... qui veut dire en français « le tueur en moi et le tueur en toi ». La BBC voit une apologie de la violence. Une inquiétude renforcée par une interview de Billy Corgan, dans laquelle il déclare, je cite, « La raison pour laquelle j'ai écrit Disarm, c'est parce que je n'avais pas le courage de tuer mes parents. Alors j'ai pensé me venger d'eux en chanson. Plutôt que d'écrire une chanson violente et pleine de colère, j'ai pensé écrire quelque chose de beau pour leur faire comprendre la tendresse que j'éprouve et leur faire regretter de m'avoir si maltraité. » Certains trouvent ces paroles dérangeantes, d'autres estiment qu'il est légitime de s'exprimer comme ça lorsqu'on a subi des abus. Pour ma part, je pense que Disarm traduit plutôt bien comment un foyer dysfonctionnel peut engendrer des enfants et des futurs adultes tourmentés.
Merci Roman, on écoute la chanson à la fin de l'émission, si tu veux bien. Juste après le répondeur, je crois qu'on a des messages. On écoute.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllabe, la radio sauvage.
Coucou l'équipe de 6 heures avant minuit. C'est 1, 2, 3. Je revenais 6 heures avant minuit. Coucou, c'est Benoît. Et oui, je suis fidèle auditeur de Syllabe. Je suis fidèle. Les levels de Syllabe. Pour vous dire que c'était super le plateau radio de France Musicale de Rennes samedi soir, donc dans le Hall 4. En plus j'étais présent parce que je me suis dit en attendant que les concerts commencent au Parc Expo. Et ben vraiment c'était super d'assister comme ça à un plateau en direct et puis bien sûr de regarder comment Timothée s'occupe de la technique, ce sera peut-être pour plus tard, hein, s'il faut. Donc voilà. Donc en fin de compte, j'ai passé un bon week-end des Transmusicales de Rennes, un peu dur, mais ça allait. Donc vraiment, j'ai fait plein de découvertes pendant ces 3 jours en VIP. Donc voilà, c'est comme ça. Donc Donc, j'ai vu, il y avait une info au moment où je suis allé au bar VIP des France Musicales. Il y a une info que je vais vous donner aujourd'hui. Eh ben, je sais pas si vous connaissez l'artiste Jessica Winter. Donc, je pense que peut-être pour certains ou certaines des auditeurs ou des auditrices de Syllab connaissent ce nom-là. Eh ben, c'est une artiste londonienne qui fait un peu du la pop, un peu queer, un peu voilà. Donc, elle a fait un peu partout. Elle a été produite un peu partout. Apparemment, je sais qu'elle a produit quelques titres de Metronomy, donc célèbre groupe avec le titre The Look, extrait de l'album The English Riviera, sorti en 2011, qui est un album magnifique, le meilleur album du groupe, selon moi. Donc voilà, et puis vu que Jessica Winter, je l'ai vu plusieurs fois l'année dernière, donc une fois c'était à Rennes, je sais plus, dans un truc... avant, donc c'était au début d'année 2024, et bien sûr vers l'été 2024 elle est passée à la Route du Rock au Fort Saint-Père, donc officiel de la Route du Rock à Saint-Malo, donc vraiment où elle a mis un show incroyable, et bien sûr vers fin octobre début novembre au festival Rixel 111 à la salle de la Cité à Rennes, où là j'étais encore plus à être présent pour elle, parce que je trouve qu'elle est une artiste incroyable. Donc, si vous voulez la voir sur scène, elle fera vous déplacer jusqu'à Nantes. Et oui, jusqu'à Nantes. Ça sera le samedi 20 décembre 2025. Et le lieu, ça s'appelle le lieu unique. Donc, qu'est-ce qu'est le lieu unique ? C'est l'ancienne biscuiterie des petits beurres lus, donc voilà, des petits gâteaux qu'on a goûté quand on était tout petit, donc avec le fameux petit beurre nantais, donc Jessica Winter n'est pas tout seul, et je crois qu'il y a une artiste nantaise que je ne connais pas du tout, et puis je crois qu'il y a une DJ nantaise que je crois que j'ai vu à la Route du Rock cette année et que je n'ai plus son nom, donc voilà. Si vous voulez vraiment pousser jusqu'à Nantes pour aller voir Jessica Winter, c'est ce samedi 20 décembre 2025 au lieu unique à Nantes. Et en plus, c'est à prix libre, donc vraiment, si vous voulez mettre, par exemple, un euro ou même deux euros pour Jessica Winter en disant « ouais, elle est pas terrible » et tout ça, ou il y a certains qui disent « si, c'est Jessica Winter, c'est une valeur sûre », vous pouvez mettre 20, 30, 40 ou même un peu plus. Donc voilà, ça fera plaisir et ça fera encourager cet artiste que j'adore beaucoup. Donc voilà, bon. Je fais des gros bisous à toute l'équipe de 6 heures dans le mini, et puis bien sûr à tout la technique, hein, Timothée, Maud, et puis bien sûr l'Arkienne, bien sûr à Roman. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Et puis si j'ai plus d'infos concerts ou d'infos festival sur Rennes ou sur Nantes ou même ailleurs, avec grand plaisir de rappeler le standard. Voilà, gros bisous à vous, ciao.
Merci Benoît, bisous à toi aussi, mais tu sais, il faut que tu viennes faire des chroniques plutôt que de laisser des messages de 5 minutes, ce serait plus sympa. Ah oui, il sera meilleure qualité. N'hésite pas, Benoît, si tu veux venir faire des chroniques dans 6 heures avant minuit. Faites comme Benoît, laissez-nous un message, peut-être un petit peu moins long. Hein. 02 30 96 25 35. Merci Maud pour la technique et merci d'avoir fait aussi la technique au trans, on précise. Hein. On écoute Disarm de The Smashing Pumpkins que nous a décortiqué Roman dans sa super chronique. À demain dans 6 heures avant minuit. We'll be right back.
sauvage.
Quelle heure est-il ?
Il est 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18 heures, 19 heures, sur Syllabe, la radio sauvage.